Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers amis de Bana Okapi, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien. Bana Okapi, un programme des Radio Okapi en partenariat avec l'UNICEF, est au service des jeunes, des plus jeunes et des parents de la République démocratique du Congo. Ensemble, nous explorons des sujets essentiels pour votre quotidien, la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, la protection des droits de l'enfant et l'environnement. En République démocratique du Congo, de nombreuses jeunes filles ont recours à l'avortement clandestin pour diverses raisons, souvent liées à la pauvreté, au manque d'accès à l'éducation sexuelle et reproductive, à la pression sociale ou encore à des grossesses non désirées. Cette pratique illégale est dangereuse, met gravement en danger la vie et la santé de femmes. Les avortements clandestins sont souvent pratiqués dans des conditions insalubres, sans personnel médical qualifié ni équipement adéquat. Les conséquences de ces avortements sont souvent tragiques. Infection, stérilité, décès. Un véritable problème de santé publique. Aujourd'hui, Bana Okapi s'épanche sur cette réalité alarmante. Au programme, des témoignages poignants de jeunes filles et des femmes qui racontent leurs expériences. Des analyses d'experts dont un gynécologue, un religieux et d'autres spécialistes qui apportent leur éclairage. Des pistes pour lutter contre ces fléaux et offrir un accompagnement adapté seront également explorées. Sarah Sombela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Deps Vita. Christian Mapenda Noya Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouki Mofelele, Dijano. Le magazine Bana Okapi se lance sur une note de bonne humeur.
Bonjour la Radio Okapi, je m'appelle Shabani Bin Ibrahim, je suis le directeur de la radio communautaire Radio-Télé de l'Unité, m'étant depuis Congolo, dans la province du Tanganyika. C'est 23 ans d'existence de la radio de la paix. Je souhaite mes meilleurs vœux à tous les journalistes de la radio Okapi. Et pour ce 23e anniversaire, il est très important que la radio Okapi soit représentée dans chaque territoire de la RDC, car sa couverture est trop limitée, seulement dans les 26 chefs liés de la province, pendant que la RDC a 145 territoires. Cette délimitation de la couverture fait à ce que les habitants dans les coins et les recoins du pays ne sont pas écoutés. Il est aussi très nécessaire à la radio Okapi de renforcer les capacités des journalistes dans les territoires. À toutes et à tous les journalistes de la radio Okapi, bon anniversaire.
Nous parlons avortement clandestin, cause, conséquence et prévention. L'avortement clandestin est un problème de santé publique majeur en République démocratique du Congo, avec de conséquences dévastatrices pour les jeunes filles et les femmes. Dans cet élément, des jeunes filles témoignent à cœur ouvert des expériences vécues par leurs proches, sœurs, amis, tante, cousine, elle raconte les difficultés rencontrées, les complications de santé parfois mortelles liées aux avortements clandestins. Elle s'exprime au micro de Grâce en Vézolo.
Ouais, j'avais une amie dans le quartier. Elle était du genre une fille calme. Elle vivait avec sa mère et son père, mais sa mère était un peu dure avec elle. Sa mère ne savait pas qu'elle avait un petit copain. Un jour, sa mère a appris cela. Elle avait voulu faire arrêter son petit copain. On n'a pas compris qu'à quel temps après, elle était maintenant enceinte. Quand sa mère a appris cela, elle est du genre colérique. Elle n'aime pas que les gens savent sa faiblesse, quoi. Et quand elle a su que sa fille était enceinte, elle l'a menée à l'hôpital pour qu'elle puisse avorter. Mais ça a mal tourné aujourd'hui. Elle n'est plus avec nous, la fille, elle est morte. Et on avait arrêté le jeune homme. La maman aussi, pour quelques temps, elle est libérée. Mais ça nous avait vraiment blessé, cette histoire. C'était une fille très calme. Ta mère l'avait amenée pour qu'elle puisse avorter.
Mehdi, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous avez un ami qui a commis l'avortement clandestin?
Oui, oui, une connaissance. En fait, elle était une étudiante. Pour elle, c'était d'abord les études. Avoir un enfant tôt, ça pourrait l'empêcher à réaliser ses rêves. Du coup, elle a avorté pour la première fois et la deuxième ainsi que la troisième fois. Et après ça, elle a eu de trompe bouchée. On lui a enlevé de trompe, donc elle peut plus avoir des enfants. Donc c'est ça, vraiment ce qui nous a fait mal parce qu'elle pourrait plus être maman.
Et Déborah?
Oui.
Avez-vous un ami qui a connu l'avortement clandestin? Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui ont fait qu'elle puisse prendre cette décision?
Elle a pris cette décision parce que c'était une personne qui n'avait pas une vie fixe. Elle aimait beaucoup la vie des hommes. Elle était cupide, si je peux dire. Elle aimait beaucoup, avoir beaucoup, posséder des biens, d'argent, des matériels. Et un jour, elle est tombée enceinte, elle-même ne savait pas. Et voilà qu'elle va chez son copain qui était sexologue. Elle est allée chez son copain et la grossesse était à 3 mois. Le copain lui a donné un médicament. Elle a pris les médicaments et au bout de 48 heures, elle a saigné excessivement. La conséquence, je ne sais pas si je peux dire qu'il y a une conséquence parce que jusqu'aujourd'hui, elle continue de mener sa vie.
Eh bien, moi je pourrais dire que j'ai vécu plusieurs fois ces cas dans la famille avec deux sœurs, deux cousines, deux amis et je ne sais pas comment dire. Mais bon, avec les autres, tout ont eu de problèmes après parce que aujourd'hui, dans les mariages, il y a ces filles, certaines qui n'ont pas pu concevoir parce qu'ils ont eu à avorter plusieurs fois. Mais il y a aussi des autres qui, malgré l'avortement, continuent leur vie normalement.
D'après vous, quelles sont les conséquences physiques et psychologiques que ces avortements ont provoquées sur la vie de toutes ces amies et connaissances?
En fait, au moins seulement moralement. Je pourrais dire que moralement, il y a une culpabilité et vous vous inquiétez par rapport à ça, peut-être parce que c'est une perte de vie. J'ai eu à tuer quelqu'un et ça fait mal.
En ce qui me concerne, je ne souhaite pas vraiment que les femmes ou les filles avortent parce que ce n'est pas une très bonne idée. Savons, retenons que lorsque tu as conçu, tu es enceinte, il y a déjà une vie qui est en toi. Et quand tu avortes, c'est comme si tu tuais. Et il y a aussi beaucoup de conséquences néfastes après l'avortement. Il y a celles qui n'arrivent plus à accoucher après, et aussi des morts, comme je venais de dire tout au début, la fille qui est morte aujourd'hui, sa famille l'a perdue, même son petit ami l'a perdue parce que elle s'est décidée, elle plutôt et sa mère, d'avorter. C'est pas vraiment une très bonne chose d'avorter. J'ai conseillé aux filles, quel que soit l'âge à laquelle tu tombes enceinte, je te demanderai de garder l'enfant parce que l'enfant est une bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Avorter n'est pas une très bonne chose.
Bon, selon moi, parler des conséquences, moi je dirais qu'il y a plusieurs conséquences. Entre autres, il y a la mort, il y a également le traumatisme qu'on retrouve chez certaines femmes parce que peut-être qu'elles se disent que c'était pas comme ça. Mais arrivé au niveau de l'avortement, on se rend compte que les réalités sont autres. Mais pour parler des conséquences, moi je dirais plutôt que ça dépend des cieux. Parce que sous d'autres cieux, on autorise l'avortement. Par exemple, dans des pays plus développés. Mais ici, sur les plans bibliques, même sur les plans de la société, on dit que c'est n'est pas bien. Voilà, moi je crois qu'il y a plusieurs conséquences et il faut toujours faire attention. Mais si jamais on tombait enceinte, le mieux serait de garder l'enfant parce que l'enfant c'est une bénédiction. Parce que lorsqu'on avorte, on s'est dit, lorsqu'on s'est marié, on s'est dit, Seigneur, est-ce que j'aurai un enfant? Et il y a la conscience qui t'a dit tu avais avorté, je t'avais donné un cadeau, tu avais avorté. Voilà, donc il faut agir en conséquence.
En tout cas, les conséquences sont énormes. Les conséquences, c'est d'abord l'infertilité, il y a la mort, il y a des maladies, il y a des cancers même. Pour garder sa santé et mener une vie saine, il faut éviter l'avortement. Parce que mettre un enfant au monde, ce n'est pas une malédiction. Et l'enfant n'empêche pas les études, n'empêche pas avoir une vie normale.
Quels sont les facteurs qui ont influencé leur décision, selon vous?
Pour certaines filles, ils imaginaient qu'elle va arrêter avec ses études, elle ne saura plus continuer. Et ses parents vont se fâcher s'ils ont su qu'elle est enceinte. Pour certaines, il y a même une histoire, je ne sais pas si tous les Kunos connaissent ça, il y a certaines filles qui tombent enceintes expressement et avortent expressement pour avoir de gros seins. Ce sont les réalités qui se passent à Kinshasa. Et il y a d'autres par négligence des parents. Surtout pour les adolescentes. Par négligence, elles veulent connaître la vie et boum, elles tombent enceintes. C'est l'une ou quelques facteurs qui font à ce que les femmes ou les filles tombent enceintes.
Eh bien, l'avortement, il faut retenir aussi que des fois, il y a l'avortement qui est involontaire et aussi l'avortement volontaire. D'abord, on n'avorte pas parce qu'on veut avorter, mais parce qu'on se sent vraiment obligé d'avorter. Il y a ces situations qui se présentent devant de nous. Le manque d'argent, on ne sait pas comment entretenir l'enfant qui viendra, bien que ce soit une bénédiction, mais peut-être le père a pris la fuite. et on se retrouve seul. La famille nous a rejetés, je suis orpheline, je suis ceci, mes études devant moi, je dois continuer et tout ça. Et cette peur-là de se dire que qu'est-ce que les gens diront de moi, qu'est-ce que, et surtout quand on est chrétienne, on se retrouve, on est enceinte et on verra quoi. Je faisais les choses en cachette, donc je suis obligée d'avorter. Mais aussi, je ne suis pas prête d'avoir un enfant, vous comprenez, parce que avoir l'enfant, c'est toute une responsabilité de la vie, c'est une nouvelle vie qui commence. Si tu avais habitude de manger un pain, ça sera maintenant deux pains et ainsi de suite. L'argent de payer un sac, il faut acheter, ceci, cela, scolariser. Et tout ça, c'est ce qui fait penser que je ne suis pas encore en mesure de le faire, bien que je suis grande, bien que peut-être les gens ne diront rien. Mais quand je sens que je ne suis pas en mesure de le faire, c'est ce qui pousse un peu, qui donne cette idée-là d'avorter. Mais je ne conseille pas aux filles d'avorter. Quand on a une grossesse, on doit assumer, parce que quand c'est venu, tu l'avais voulu et assume.
Moi, je dirais il y a aussi la malformation. Parce qu'il y a certaines femmes, lorsqu'ils conçoivent avec leur homme, il arrive parfois que l'enfant puisse avoir une malformation. Et lorsque l'enfant a une malformation, le mieux à faire, c'est évacuer le fœtus déjà dès les débuts. Et aussi, il y a surtout les facteurs qui favorisent le plus, c'est les regards des autres, les regards et les jugements des autres. Qu'est-ce que mes parents diront? Qu'est-ce que l'église dira de la sœur qui chante à l'église comme un ange? Qu'est-ce que les autres diront? Donc il y a cette peur-là, on s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais commencer par expliquer? Donc c'est comme un blocage, c'est comme une pierre qui vient se poser devant notre vie et on se dit comment je vais sauter. Et le mieux à faire c'est d'enlever la pierre et puis continuer notre chemin. Donc c'est ça. L'avortement n'est pas du tout encouragé dans nos familles. En tout cas moi je n'ai jamais vu une famille où on encourage l'avortement. Mais c'est très fréquent malheureusement. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent plus avoir des enfants, la plupart en tout cas. Et aujourd'hui d'ailleurs il y a des termes qu'on utilise. Il y a des termes qu'on utilise pour signifier l'avortement. Je ne sais pas si je peux le dire parce que c'est en lingala. Il y a certaines personnes qui disent apopoliser. Donc quand je t'apopolise, la personne a avorté. Donc ce sont des termes codifiés, si je peux dire, parce qu'on sait déjà que c'est un sujet tabou. C'est un sujet qu'on ne peut pas prendre à la légère. Donc ce n'est pas un fait à encourager. Et surtout que nous sommes des bantous, on ne peut pas tout copier de l'extérieur.
L'avortement clandestin demeure une réalité préoccupante, souvent le seul recours pour les femmes dans un pays où l'avortement n'est pas autorisé. À Kinshasa, demeure de famille appelle à briser les tabous de la sexualité. Elles estiment que l'éducation sexuelle est essentielle pour prévenir les avortements clandestins, souvent mortels. Elles sont au micro de Sulamite Kipuni.
Bonjour madame.
Bonjour.
Comment abordez-vous les questions de sexualité avec vos enfants?
Bon, je parle avec et sans tabou. Je parle avec mes enfants de la sexualité sans tabou.
Si votre fille vient vous annoncer qu'elle est enceinte, une grossesse non désirée bien sûr, serez-vous prête à la soutenir?
Oui, puisque je ne vais pas vouloir l'avortement. Ouais, moralement, certainement, je serais un peu pas contente. Mais comme je connais les conséquences de l'avortement, pour moi, je vais la soutenir à faire son enfant et c'est ça.
Quel rôle pensez-vous que les parents doivent jouer dans l'éducation sexuelle de leurs enfants et dans la prévention de l'avortement?
Oui, je pense qu'il faut parler plus avec les enfants, filles comme garçons, il faut parler. Il faut leur demander souvent l'abstinence ou bien le mode préservatif pour ceux qui n'en peuvent pas. Oui, je pense que c'est mieux de parler avec les enfants clairement et leur dire les conséquences qu'il y aura de grossesse et qu'il y aura de maladies, il y aura ceci, cela. Donc il faut vraiment expliquer clairement aux enfants par rapport à la sexualité pour éviter tous les dangers possibles, la maladie transmissible et les avortements et les grossesses non désirées.
Merci madame.
Merci à vous aussi.
Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Comment abordez-vous la question de la sexualité avec vos enfants?
Oui, je parle bien avec tous mes enfants et je leur conseille d'être prudente par rapport aux grossesses. Mais si par exemple qu'elle arrive tôt qu'elle est grosse, comme moi, je peux la soutenir pour ne pas être démoralisée en premier lieu et qu'elle puisse être calme pour entamer ce qu'elle a comme grossesse. C'est ça en quelque sorte.
Quel rôle pensez-vous que les parents doivent jouer dans l'éducation sexuelle de leurs enfants et dans la prévention de l'avortement?
C'est seulement le conseil, hein. Je peux dire le conseil. Je leur conseille d'être mature et puis d'être aussi prudente parce que je ne peux pas surveiller là où ils sont tentés de partir gauche à droite. Je ne peux pas surveiller. Mais au moins, je donne des conseils là pour qu'ils soient bien dans la vie. Ouais. De ne pas donc attraper la grossesse. Oui, c'est ça, c'est ça.
Merci d'avoir répondu à toutes vos questions, madame.
Merci à vous également.
Comment abordez-vous les questions de la sexualité avec vos enfants?
Maintenant là, j'ai pas d'enfants, mais quand j'aurai des enfants, j'aimerais les expliquer déjà de l'âge de la puberté, que quand elle a ses règles, après quelques jours de règles, il y aura un temps qu'on appelle ovulation, dès qu'elle sera en contact avec un homme intimement, elle pourrait avoir possibilité de tomber enceinte. Je vais l'expliquer clairement que l'effet d'aller avec un homme sans préservatif, l'effet de ne pas s'abstenir, elle sera exposée, en fait, avoir une grossesse non désirée. En fait, elle sera butée si elle sera étudiante ou bien élève à avorter. Et je vais l'expliquer les dangers d'avortement étant médecin. Je vais l'expliquer qu'elle court un grand danger, soit quand il y aura de problèmes de curettage, elle peut s'exposer avec du matériel non stérile, de contacter des infections, et puis de cancer des corps plus tard, elle pourra endommager ses organes génitaux. Donc, le mieux à faire est de s'abstenir jusqu'à ce qu'elle sera mature, elle aura un homme qui pourra prendre en charge son enfant pour éviter d'arrêter de grossesse.
Si votre fille vient vous annoncer qu'elle est enceinte, une grossesse non désirée bien sûr, serez-vous prête à la soutenir? Si oui, pourquoi?
Bien sûr que oui.
Mm-hmm,
oui.
Pourquoi?
Parce qu'elle est, déjà enceinte, comme on dit que si quand le vin est tiré, on le boit, non? Donc ça ne tue pas qu'il y a des filles mères qui ont eu des enfants avant l'âge au fait de la maturité, au fait avant l'âge mûr, mais qui ont continué les études. Je vais l'encourager à supporter jusqu'à terme, puis après elle va continuer ses ambitions. Au fait, c'est pas la fin du monde, quoi. Je vais l'expliquer tout ça et puis je vais la soutenir. Mais je veux pas encourager que ça soit une habitude ou peut-être qu'elle aura deux sœurs. Je vais tonner. Je vais encore, au fait, marteler pour que cela n'arrive plus.
Quel rôle pensez-vous que les parents doivent jouer dans l'éducation sexuelle de leurs enfants et dans la prévention de l'avortement?
Ils ont un rôle majeur parce que, comme on dit, le dehors est risqué. Ils sont eux le premier éducateur sexuel de leurs propres enfants parce que, à l'école, ils auront une éducation sexuelle, mais qui sera peut-être superficielle avec des amis. Peut-être qu'il aura des amis qui vont le dévier. C'est les parents qui sont le premier garant de cette éducation. Hein? Donc, dès le bas âge, quand déjà l'éducation, ce sont les parents. Vous expliquez aux enfants petit à petit, quand c'est tous les enfants intelligents, vous l'expliquez, le rôle, tout, l'éducation, tout, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Et les parents ne peuvent pas avoir de tabou avec leurs enfants. Hein. Surtout nous, les Africains, les Bantous, surtout encore le Congo, nous, les Né-Congo, nous sommes vraiment un peu réservés à aborder des sujets sexuels avec nos enfants. Mais je veux encourager aux parents, aux futurs parents, d'aborder les sujets sexuels parce que c'est très important. Parce que les parents, chacun a sa façon d'éduquer les enfants. Si un autre éduque ton enfant et tu vas juste subir les conséquences, peut-être que c'est que tu ne voulais pas voir chez tes enfants.
L'avortement clandestin chez les jeunes, les causes, conséquences et préventions, est au cœur de ce magazine. Il est de notre devoir de parler des sexualités avec nos enfants, estiment des pères de famille rencontrés dans les rues de Kinshasa. Ils expliquent qu'une éducation sexuelle ouverte peut prévenir les avortements clandestins et leurs conséquences dramatiques. Et pour eux, il faut parler sans tabou de la sexualité aux enfants afin d'éviter tous les dangers possibles qui en découlent. Suivez-les au micro de Sulamit Kiponi.
Bonjour papa.
Oui, bonjour.
Comment abordez-vous la question de la sexualité avec vos enfants?
Bon, j'ai une fille à la maison qui a 14 ans. D'habitude, quand les enfants ont tel âge, enfin, qui sont adolescents, il faut parfois aborder les sujets à la maison, d'expliquer comment se tenir, parce que c'est souvent les garçons qui abordent les filles. Alors, il faut leur rappeler que si vous faites ceci, que vous faites ceci. Donc, sans tabou, il faut l'expliquer. Comme vous êtes déjà, vous voyez déjà des règles, la menstruation que vous dites là, l'expliquer, vous calculez vos périodes, non pas aller avec des garçons. Si à telle période vous partez avec des garçons, vous serez tombé enceinte. Pendant que vous êtes encore à l'âge de scolarité, ça ne serait pas une bonne chose. Donc il faut souvent dire la vérité aux enfants, sans tabou, ce serait une bonne chose. C'est une façon de les prévenir contre les dangers imminents, des garçons qui dérangent parfois. Ça ne serait pas une bonne chose si elles tombent enceintes. Donc c'est ça.
Et si votre fille venait vous annoncer qu'elle est enceinte d'une grossesse non désirée, serez-vous prêt à la soutenir? Ou bien vous allez la chasser, ou bien vous allez la gueuler?
Bon, dans les cas évidents, la chasser, non. Parce que si une jeune fille à la maison, il y a une erreur déjà qu'il faut corriger. D'abord, au départ, parler avec elle, qu'elle est responsable. Elle est sortie avec qui? Et d'essayer d'interpeller les garçons avec sa famille. Si votre fille a dit la vérité que ce garçon tel vous l'appelait, vous les mettez ensemble. Vous les demandez, les garçons. Donc, vous connaissez la fille, d'accord, je le connais, vous n'êtes pas sorti avec elle. Donc, c'est ça, comme ça. Vous trouvez des solutions et si votre fille, nécessairement, il doit quitter la maison, puisque vous ne saurez pas supporter sa grossesse. Il part avec les garçons et ils prennent ses engagements avec la famille des garçons. Et quand elle va mettre au monde, et si vous voulez la récupérer pour continuer les études, on a connu un cas comme ça, ma grande sœur a connu des cas comme ça. Papa ne l'a pas enfin, vraiment chassé à la maison. Juste le temps d'aller mettre au monde et revenir à la maison continuer ses études. Donc ça serait vraiment une erreur si vous chassez la fille pour du bon, pour aller là-bas. Elle peut avoir deux, trois enfants comme ça. Au lieu d'avoir juste un enfant, vous le récupérez et connaissez ses études. C'est ça des choses qui arrivent. C'est une erreur qu'il faut corriger. C'est pas aussi mauvais que ça. Ça arrive.
Quel rôle pensez-vous que les parents doivent jouer dans l'éducation sexuelle de leur enfant et dans la prévention de l'avortement?
D'abord, l'avortement en soi n'est pas une bonne chose. C'est interdit par la loi. Donc, on ne conseille pas aux enfants d'aller sortir avec les garçons pour tomber enceinte et puis avorter, non. Mais parler de la sexualité, c'est souvent quand les filles sont majeures. Donc, pas majeures, vraiment adolescentes. Donc, l'adolescence, c'est la période où l'on n'est plus enfant, mais pas encore adulte. C'est dans cette période-là, surtout les filles, même les garçons, de parler sans tabou. Surtout les filles, quand vous êtes à telle période, vous voyez déjà des règles, il faut être comme ça, donc une bonne façon de se comporter, comme ça, et c'est sans tabou. Puisque ça, si vous ne l'éduquez pas, souvent nous avons des internets ici, et il peut voir des films interdits, et essayer d'inquiéter notre mentalité dans la tête, et essayer d'exercer ça quelque part, ça ne serait pas une bonne chose.
Merci, monsieur.
Bonjour, ok.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Comment abordez-vous les questions de la sexualité avec vos enfants?
Abordez-vous les questions concernant de la sexualité à un enfant qui a déjà atteint l'âge de la maturité? C'est bon, il faut déjà commencer à expliquer ton enfant c'est quoi la sexualité. Pour qu'elle ne soit pas surprise, dans un coin, elle sera avec un ami là. Vraiment, moi, je prépare mes enfants. Je n'ai pas encore atteint un enfant qui a déjà passé plus de 30 ans, mais j'ai déjà un enfant qui a déjà atteint 22 ans. Je l'aborde calmement. Je l'explique, c'est quoi la sexualité.
Et si votre fille vient vous annoncer qu'elle est enceinte d'une grossesse non désirée, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez la soutenir? Vous allez la chasser de la maison? Vous allez la gueuler? Vous allez la punir?
Je vais la gueuler, je ne la chasserai pas. Mais je vais la gueuler et après, je vais la donner comme une conseillère. Elle va devenir maman, elle va enfanter, l'enfant là sera à elle. À moi, sera comme un petit fils, comment. Donc, c'est ça. Mais je ne vais pas la gueuler. Mais vraiment, je vais la donner. Ça va me choquer. Un enfant que je lui ai tué, je fais tout pour qu'elle a grandi avec sa maman, pour qu'elle nous représente. Même si nous ne serons pas là, voilà un enfant qui a bien étudié. Mais elle a tombé enceinte. Vraiment, je vais la conseiller pour que je ne puisse pas être traumatisé. Parce que la colère donne aussi la maladie aux parents. Moi, je vais m'apaiser. Comme on dit en Lingala, maïsé sopani. Donc, vraiment, je vais juste la conseiller.
Quel rôle pensez-vous que les parents doivent jouer dans l'éducation sexuelle de leur enfant et dans la prévention de l'avortement?
De la préparer, normalement, si un enfant elle a 6 ans, 7 ans, 8 ans, on ne peut pas la parler avec des histoires-là. Mais s'il déjà atteint 10 ans d'âge, vous voyez, elle sait comment ça pousser automatiquement. Vous s'adressez avec ta femme, si ça sera toi, ton papa, le papa ou maman. Entre vous deux, chez nous en Afrique, souvent ce sont des mamans qui donnent ces conseils. Mais un papa qui est disposé peut aussi donner les conseils à un enfant. Attention, tu vas laisser commencer à te pousser. Faire très attention. Les hommes sont sensibles. Ils vont commencer à te toucher. Et parfois, tu deviendras enceinte plus tard. Je commencerai à préparer mon enfant petit à petit pour qu'elle ne soit pas surpris.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, messieurs.
Et moi aussi, je vous remercie.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Bana Okapi s'intéresse à un problème de santé publique majeur, l'avortement clandestin. Nous allons explorer ses causes profondes, ses conséquences souvent dramatiques et surtout les solutions pour prévenir ces fléaux. Les grossesses non désirées sont la principale cause des avortements, un acte que de nombreuses femmes sont contraintes de réaliser dans la clandestinité, faute d'un accès à un avortement médicalisé et sécurisé. Cette situation engendre des risques considérables pour la santé des femmes, souvent confrontées à des conditions non médicalisées et dangereuses. Comment prévenir et mettre fin aux avortements clandestins chez les jeunes? Nos invités, un gynécologue et un cadre du PNSA, Programme National de la Santé des Adolescents, proposent des solutions. Je suis Sarah Soumbela et je suis très heureuse de vous accompagner dans cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapendano, Yacris, une mise en onde de Depsovita et la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele, Dijano.
Bonjour, je réponds au nom de Baroni Kamango Dorcas, élève de complexe scolaire Forain à 5e année A. Je souhaite joyeux anniversaire à la radio Okapi, bonne chance à eux, que Dieu leur préserve, que Dieu leur donne encore beaucoup de chance. J'aime l'émission Parlant en français parce que ça me donne la sagesse encore, ça m'ajoute beaucoup de mots en parlant en français et ça me donne beaucoup de connaissances, c'est ce que je ne savais pas, je sais. Premièrement, je salue mon métier, Lambert. Deuxièmement, je salue toute ma famille et je salue mon père King. Je salue mon petit frère Moïse Matenda Sefou. Et maman Béantine, je salue encore mon petit frère Chris.
Les anniversaires à la radio Okapi, que du bonheur pour cette année 2025.
L'avortement clandestin chez les jeunes est au cœur de ce magazine Bana Okapi. Bana Okapi s'est rapproché d'un religieux, le pasteur Christian Nilumbu, de la communauté chrétienne internationale Rehoboth. Pour lui, l'avortement clandestin et les rapports sexuels avant le mariage sont strictement interdits. À l'en croire, ces pratiques entraînent des conséquences physiques et sociales dans le futur. Il conseille vivement aux jeunes de s'abstenir de telles actions. On écoute le pasteur Christian dans cet entretien avec Stanislas Diomi.
Révérend Christian Nilumbu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes pasteur à la communauté chrétienne internationale Rehoboth et aujourd'hui, Radio Okapi vient vers vous parce que nous abordons une thématique très importante sur l'avortement clandestin chez les jeunes, causes, conséquences et prévention. Quel est votre point de vue par rapport à ces sujets sur l'avortement clandestin chez les jeunes?
Merci beaucoup en tout cas pour la parole. Premièrement, j'aimerais dire que par rapport à l'avortement et la sexualité des jeunes, j'aimerais dire une chose très importante que, d'abord, par rapport à l'avortement, sur le plan biblique, moi en tant que pasteur, la Bible n'autorise jamais, je dis bien jamais, l'avortement. Dans le livre d'Exode chapitre 21, la Bible est claire là-dessus. La Bible n'autorise jamais l'avortement. Il y a même de peine de mort qui est prévue. La Bible dit clair là que si quelqu'un provoque l'avortement à une personne et que le fœtus n'est pas mort, la personne doit payer une amende. Mais si la personne est morte, cette personne-là qui cause cet avortement est punie de peine de mort. Donc c'est pour dire déjà, quand déjà la Bible n'autorise pas l'avortement, c'est très important que le jeune puisse savoir que la Bible ne l'autorise pas. Et également, sur le plan de la sexualité, déjà la Bible également n'autorise pas des personnes, des jeunes, qu'ils puissent s'accoupler avant le mariage. Donc, les jeunes ne peuvent pas s'hasarder à rentrer dans la sexualité avant le mariage. La Bible est claire qu'il y aura seulement sexualité après le mariage. C'est dans le mariage qu'il y aura sexualité. Donc la Bible, l'Église même n'autorise pas de jeunes coucher ensemble avant le mariage.
Révérend Christian Ilumbu, alors comment la communauté aborde-t-elle ces questions? Parce que souvent dans la communauté, dans la société dans laquelle nous vivons, on trouve que c'est un sujet tabou et que nos parents abordent de moins en moins ces problèmes avec leurs enfants. Qu'est-ce que l'Église fait à ce sujet?
Bon, l'Église, au travers de la jeunesse, au travers des départements, même des femmes, en parle vraiment en tout cas. Il n'y a pas de tabou là-dessus. On parle dessus et on martèle pour que les jeunes puissent savoir comment est-ce qu'ils doivent se comporter. En tout cas, l'Église, vraiment, en tout cas, en parle beaucoup. Et même dans le département des femmes, dans notre Église, ils préparent, ce département prépare même des femmes pour rentrer dans le mariage. Et en le parlant, on le dit que voilà ce que vous devez faire et il n'y a pas de tabou là-dessus.
Et pensez-vous que les normes sociétales, les enseignements des Églises peuvent être l'une des causes des avortements clandestins?
D'abord, monsieur le journaliste, permettez-moi de vous le dire, aucune Église ne peut jamais donner des enseignements que les gens puissent avorter. Non. Dès d'ailleurs que l'Église martèle même, n'autorise même pas, enseigne jour et nuit, parce que avorter c'est un péché. Quand vous tuez quelqu'un, c'est un péché. Déjà l'Église ne l'autorise pas. Si l'Église ne veut même pas que les gens puissent avorter, et déjà, dans ça, vous allez comprendre que l'Église enseigne jour et nuit pour ne pas favoriser cela. Au niveau de la société, je peux dire que voilà, chacun a ses opinions. Mais moi, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'Église, nous enseignons à tout moment, chaque jour, afin que cela n'arrive pas. Nous augmentons même les enseignements pour le faire comprendre que ça, ce n'est pas mauvais. Donc l'Église, en tout cas, pour lui, il n'y a pas de question que nous faisons, que nous disons que voilà, il y aura la honte quand vous allez avoir la grossesse, il faut avorter. Non, si toi, tu n'avais pas compris les enseignements et que tu es tombé dans ça, tu ne peux pas tuer quelqu'un parce que c'est un péché. Donc l'Église, en tout cas, martèle beaucoup sur ça.
Et quel est le rôle que peut jouer l'Église dans la prévention de l'avortement clandestin?
Déjà, je vous ai déjà dit ici que l'Église martèle sur ça. Et notre rôle, nous le faisons chaque jour. Nous enseignons aux jeunes, filles et garçons que l'avortement, la sexualité avant le mariage, d'abord, la sexualité avant le mariage n'est pas bon, et également, l'avortement n'est pas aussi bon. Donc, nous, en tant qu'Église, nous sommes en train de jouer un rôle très important. Très important. Et nous le faisons chaque jour à l'Église, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit dans le département des femmes, femmes de valeur. On le fait à tout moment pour les enseigner à ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage et également à ne pas avorter.
Les avortements ou le rapport sexuel avant le mariage ont-ils des conséquences sur la vie des jeunes?
Oui, également. Vous savez, quand vous avortez, supposons que quand vous avortez, et puis voilà, vous êtes allé dans un hôpital et que le médecin avait mal fait son travail, vous savez que vous ne pouvez pas peut-être demain avoir des enfants. Ça peut causer d'abord des problèmes sur le plan d'abord pour la vie humaine, dans la vie humaine. Sur ce plan-là déjà, c'est un problème. Et même sur le plan biblique, c'est déjà pas bien. Donc, quand des gens s'hasardent à avorter, et si par exemple Dieu t'avait donné un seul enfant là, et que vous avortez, et après demain vous allez dire quoi? Non, voilà, les tantes, les oncles, moi ensorcelé, raison pour laquelle, voilà, j'ai pas des enfants. Non. Donc, c'est déjà pas bien déjà. Dans ce sens-là. Et la sexualité également, si je peux ajouter là. Donc, voilà, quand une fille couche avec telle personne, quand vous lisez même la Bible, même le sacrificateur, ce n'est pas en vain que Dieu voulait que le sacrificateur puisse épouser des femmes vierges. Ce n'est pas en vain. Quand déjà tu es avec tel homme, tu es avec tel homme, et l'autre est là qui va venir, est-ce qu'il va accepter cela? Et si maintenant ces hommes-là, peut-être, voient cet homme-là, qui vient de marier cette fille-là. Il y aura toujours des choses. Et les choses que vous faites aujourd'hui, qui sont mal, va apporter des conséquences demain. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas bien d'avoir de la sexualité avant le mariage.
Si je vous comprends bien, le fait d'avoir la sexualité avant le mariage peut causer aussi des grossesses précoces avant le mariage, c'est une des conséquences. Et le fait d'avorter peut aussi causer des conséquences de stérilité le jour où tu auras la chance de te marier, pour les jeunes bien sûr.
Effectivement, c'est ça, c'est vrai vraiment en tout cas.
Avez-vous un mot à adresser aux jeunes qui vous écoutent en ce moment sur la fréquence de la paix Radio Okapi? Un conseil, vous en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et aux jeunes qui font des avortements clandestins et à ceux-là qui ne les font pas, qui doivent être avertis, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme mot, révérend?
Merci beaucoup pour cette opportunité enfin de lancer un message important. D'abord, premièrement, j'aimerais s'adresser aux jeunes, filles et garçons, qui font la sexualité avant le mariage, de ne pas le faire. D'abord, sur le plan biblique, c'est un péché. Ça, c'est de un. Et de deux, j'aimerais m'adresser encore à ceux-là qui avortent, qui doivent savoir ceci, que ce soit sur le plan de la société, sur le plan de la loi congolaise, c'est une infraction. Et de deux, sur le plan de l'Église, c'est un péché. Pourquoi? Parce que, à force que vous avortez avant le mariage, ça doit vous causer des problèmes sur le plan de la vie. Aujourd'hui, demain, tu peux avoir un homme qui te marie, et voilà, tu es à la maison, et directement, tu vas constater que tu n'arrives pas à concevoir. Peut-être la cause, c'était quoi? L'avortement que vous avez fait avant. C'est ce qui a causé ces problèmes-là. Donc, moi, je leur adresse la parole, je leur supplie, je leur dis qu'ils doivent éviter la sexualité avant le mariage et qu'ils doivent éviter l'avortement. Et ce n'est pas bien parce que ça cause des problèmes demain.
Révérend Christian Ilumbu, je rappelle que vous êtes pasteur à la communauté chrétienne internationale Rehoboth. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions et nous disons merci aussi à toute la communauté chrétienne internationale Rehoboth et à l'apôtre Salomon d'Italo Amatondo d'avoir accepté que vous puissiez intervenir sur les antennes de Radio Okapi.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Tadeusz Akusombo Bienfait, l'élève de la grâce en 8e A. Je souhaite d'abord joyeux anniversaire à la Radio Okapi. Que cette année soit l'année de perfection, de bonheur à la Radio Okapi. Par rapport aux émissions, j'aime écouter Okapi Service. J'aime aussi écouter de la musique qui passe à la Radio Okapi. Sans oublier l'émission Parlons Français. Nous aide à améliorer notre français correctement ici dans la ville de Kindu. Je salue mes amis de la grâce, je salue papa Serge King, je salue maman Blandine, je salue Daprisca, je salue Moïse et Martin d'Assef Baudouin.
L'avortement clandestin est un problème de santé publique majeur chez les jeunes. Le docteur Bienvenu Loussassa, médecin à l'hôpital général de référence de Béni, met en lumière les conséquences désastreuses de cette pratique sur la santé reproductive. Il s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Bienvenu Loussassa, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, docteur, recevez-vous parfois des jeunes qui ont fait des avortements?
Ah oui, nous recevons des fois les jeunes qui ont fait des avortements. Et ces jeunes ici, leur âge varie. Il y en a qui ont l'âge inférieur à 18 ans et d'autres qui peuvent avoir plus de 18 ans. Et ce sont des jeunes qui arrivent après avoir connu des avortements que la loi dit criminels et que nous appelons les interruptions volontaires d'une grossesse. Et ces jeunes ici nous arrivent dans des situations critiques. Il y a celles qui arrivent dans des tableaux de choc hémorragique, c'est qu'après avoir perdu beaucoup de sang pendant cet acte qui se fait également dans des conditions qui ne sont pas hygiéniques qui ne sont pas normées, parce que dans notre ville, la plupart les déclarent selon les récits qu'elles nous disent qu'elles les font dans les petits coins qu'on appelle des petites maisonnettes, des petits hôtels. Et là, ça peut se faire par soit un monsieur qui n'est pas avéré à les faire, et monsieur qui n'est pas cadre personnel soignant, ou bien par des fois, il y a des fois, elle déclare que non, ça s'est fait par un personnel soignant, entre guillemets, que nous ne savons pas maîtriser. Parce qu'à part ce tableau d'hémorragie avec lequel elles arrivent, un tableau de choc anémique, choc hémorragique, elles arrivent également dans des tableaux de septicémie. Donc ça, c'est déjà une infection carabinée parce que, pendant l'acte de cette interruption, on a utilisé des matériels de peste non stérile, ou bien c'était dans un endroit où l'environnement n'était pas également approprié. Et il y en a d'autres qui utilisent même le traitement traditionnel, et ça va amener à endommager les organes génitaux de cette jeune fille ici. Et puis bon, voilà. Après, il y a certaines que nous sauvons dans cette situation ici, parce que quand elles nous contactent à l'hôpital général, elles viennent consulter à l'hôpital général où nous sommes, dans les services de gynécologie obstétrique. On les sauve de justesse par des réanimations et avec des transfusions sanguines. Mais il y a d'autres aussi que nous perdons, parce que elles viennent en retard. Peut-être celui qui les traitait, qui a fait cet avortement avec cette dame, l'a demandé de ne pas consulter l'hôpital général pour qu'on ne puisse pas dénicher que c'est lui l'auteur qui aurait entraîné cet avortement ici. Parce que si nous nous souvenons bien, ça ne fait pas un mois, et nous avons perdu une jeune fille après 19 jours de ce type d'acte ici. C'est vers les dernières minutes de sa vie qu'elle déclara que non, ça s'est fait telle part, et puis on était avec telle, et puis c'était tel infirmier qui l'a fait. Mais celle-ci est partie dans un tableau d'une septicémie carabinée. On a tenté à la sauver, mais c'était vain. Et il y a une autre aussi qui a perdu son organe, l'utérus. Nous sommes arrivés parce qu'il s'est passé une perforation utérine pendant cet acte criminel dans la communauté. Et arrivé ici, l'utérus n'avait plus son état et on ne devrait pas le conserver. Et finalement, on l'a enlevé. Et donc cette dame ici, du coup, oui, elle est sauvée, elle est en vie, mais elle n'aura plus d'enfants dans ce sens-là.
Docteur, quelles sont les complications médicales les plus fréquentes que vous constatez chez les adolescentes ayant recours à l'avortement clandestin et criminel, comme vous le dites?
Ah oui, les complications les plus fréquentes, je viens de le dire, ce sont les chocs qui peuvent être hémorragiques ou bien un choc septique. C'est ça surtout ce qui les amène à l'hôpital général ici chez nous, à Beni. Et il y a d'autres, ils ont pensé faire l'acte, mais ils n'ont pas tout fini. Et il y a des restes, des membranes qui restent encore dans la cavité utérine, qui va amener à une cyberévolution, à une endométrite post-abortum, c'est comme ça que nous l'appelons. Et cette endométrite peut aller se compliquer maintenant à cette septicémie que nous venons de décrire. Voilà.
Comment l'avortement clandestin affecte-t-il la santé reproductive des jeunes filles, souvent à long terme?
Ah oui, ces jeunes ici qui ont connu des avortements à long terme, ici, elles courent le risque de faire les avortements à répétition dans leur vie, parce que cet utérus ici qui a connu, je ne sais pas combien de fois, le curage instrumental, ça peut l'amener à une synéchie de cet utérus, donc les deux parois internes de l'utérus se collent, et à ce moment-là, la vie reproductive de cette jeune dame ici sera en danger. Voilà, il y a l'autre que j'ai dit, non, nous avons fini par enlever l'utérus en soi. C'est que celle-ci, d'office, on n'aura plus d'enfants. Voilà, la vie future productive de ces jeunes filles ici qui ont connu les avortements criminels, elle est vraiment douteuse.
Nous avons parlé des complications médicales les plus fréquentes que vous constatez chez les adolescentes ayant recours à l'avortement clandestin. Quelles sont les conséquences psychologiques les plus courantes chez les adolescentes, bien sûr, ayant vécu un avortement clandestin?
Bien, ici, nous allons dire que c'est d'abord un acte que la patiente ici, la jeune fille, le fait parce qu'elle craint quelque chose. Elle a peur, soit des parents, parce que les parents vont la gronder parce qu'elle est tombée enceinte, soit c'est son conjoint ici, son amant qui lui dit non, moi je ne suis pas pour cette grossesse, soit elle ne connaît même pas qu'il a engrossé, qu'il a rendu grosse. Voilà. Et cette cette peur ici la pousse à dire non, pour que les gens ne le sachent pas, il faut que je mette fin à cette grossesse. Et voilà, c'est qu'elle va développer une peur permanente. Et si elle trouve les gens en groupe, ils sont en train de parler, elle peut penser qu'on parle d'elle. Et voilà, elle peut développer une solitude de ne pas fréquenter les gens à cause de cette peur ici. Mais néanmoins, ce n'est pas un tableau franc d'anxiété comme tel, mais il y en a d'autres qui ne présentent pas ce tableau, mais qui font encore la sexualité non protégée, qui tombent encore enceintes et qui passent toujours encore à cet acte-là d'avortement criminel. Donc il y a certaines qui font ça à répétition, et il y en a d'autres, d'office, quand elles viennent de connaître cet avortement criminel, surtout pour les jeunes filles qui gardaient encore leur hymen, pour ne pas dire qui étaient encore vierges, qui gardaient encore leur hymen, et que si cette relation sexuelle, d'où le résultat était cette grossesse, c'était la première relation sexuelle. Celle-ci développe la frigidité. Elle développe la frigidité. Elle pense que la sexualité n'est pas bien. Et les hommes deviennent comme s'ils sont des ennemis à celle-ci. C'est le tableau dont la plupart de ces jeunes dames peuvent présenter.
Et comment les professionnels de santé que vous êtes peuvent-ils accompagner et soutenir ces jeunes filles sur le plan émotionnel?
Bien. Sur le plan émotionnel, mettons-nous en tête d'abord qu'une jeune dame arrivée à te déclarer qu'elle a fait l'avortement clandestin, ce n'est pas du tic au tac. Ça demande un interrogatoire profond, que nous appelons l'anamnèse, et un examen physique vraiment de qualité pour arriver à découvrir que non, ça c'était un avortement clandestin. Et la plupart, quand elle arrive à déclarer, bien vous l'avez découvert, elles se mettent à pleurer. Elles se mettent à pleurer, elles disent de ne pas l'annoncer aux parents ou bien à quelqu'un qui l'a accompagné. Et comme ça, nous les rassurons que non, nous allons vous soigner et ça va passer. Nous n'allons pas divulguer votre secret parce que nous ne sommes liés par le secret professionnel. La maladie du patient, il ne faut pas le mettre à bruit de tout le monde. Et on les rassure dans ce sens-là, mais on leur dit quand même que elles sont également libres de l'annoncer, si c'est une fille qui était encore sous le toit paternel, de l'annoncer aux parents que non, voici la situation qui est arrivée. Parce que là, elle sera observée en hospitalisation dans le département de gynécologie obstétrique où on observe les femmes probablement enceintes. Et là, elle est obligée des fois de le dire. Et c'est seulement l'approche des parents qui les effraie. C'est que ici, nous demandons aux parents d'être doux avec leurs filles, demandons aux parents d'être doux et à d'autres personnes qui commettent ce type d'actes-là d'en être responsables et la justice de faire son travail.
Alors, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes filles qui font recours à l'avortement clandestin ou criminel?
Et ici, nous allons y aller par deux volets. Il faut dire que non, l'avortement clandestin, oui, les jeunes filles le font, mais ce n'est pas bien. Quand vous pensez coucher avec un homme, il faut se dire que non, je peux en sortir avec une grossesse. Et si vous pensez que c'était un viol, par exemple, ou bien vous avez fait l'inceste, et il y a actuellement dans le pays la loi de Maputo qui nous autorise à faire l'avortement médicalisé. Et dans ce sens-là, elle peut venir consulter et on fait une investigation autour de ses propos, autour du cas. Si nous trouvons qu'elle remplit toutes les conditions pour passer à l'avortement médicalisé, et là, nous allons réunir toutes les conditions et on va passer à l'avortement et elle sera sécurisée dans ce sens. Et puis, aux responsables des différentes grossesses, si vous pensez que vous avez enceinté la fille, faut pas avoir peur. Annoncez-vous et encadrez la grossesse, elle va finir par accoucher parce que les risques sont énormes quand on fait l'avortement criminel.
Docteur, bienvenue Lusasa, merci.
Nous vous remercions.
Bonjour, je réponds au nom de Baronne Carmango Dorcas, élève de complexe scolaire Forain à 5e année A. Je souhaite joyeux anniversaire à la radio Capi, bonne chance à eux, que Dieu leur préserve, que Dieu leur donne encore beaucoup de chance. J'aime l'émission Parlons en français parce que ça me donne la sagesse encore, ça m'ajoute beaucoup de mots en parlant en français et ça me donne beaucoup de connaissances. C'est ce que je ne savais pas, je sais. Premièrement, je salue mon métier, Lambert. Deuxièmement, je salue toute ma famille et je salue mon père King. Je salue mon petit frère Moïse Matenda Sef et maman Blandine, je salue encore mon petit frère Chris.
Les anniversaires à la radio Capi, que du bonheur pour cette année 2025.
Les amis de Bano Okapi, nous parlons aujourd'hui de l'avortement clandestin chez les jeunes, les causes, les conséquences et la prévention. Hémorragie, perforation d'organes, mortalité maternelle, l'avortement clandestin présente des risques graves et immédiats pour la santé de jeunes filles. Le programme national de santé de l'adolescent PNSA souligne la complexité du phénomène lié notamment à l'accès difficile aux services de santé adaptés. Le docteur Lorenz Mourahiri, chef de division en charge de suivi et évaluation au PNSA, précise que des efforts sont déployés pour améliorer l'accès à l'information et aux soins pour les jeunes filles. Depuis 2011, le PNSA a intégré des services de santé adaptés aux adolescents et jeunes dans 22 de 26 provinces de la RDC. Plus de détails dans cette interview que le docteur Mourahiri a accordé à Rachel Kisimbangu.
Docteur Lorenz Mourahiri, bonjour.
Bonjour madame.
L'avortement clandestin est-il un danger pour les jeunes, jeunes filles surtout?
Oui, l'avortement clandestin est un danger, aussi bien pour les femmes en général et surtout pour les jeunes filles.
Pourquoi?
En fait, les avortements clandestins exposent les jeunes filles à des dangers ou à des risques qui sont soit immédiats, certains sont précoces et d'autres sont lointains. Quand je parle des dangers ou des risques immédiats, je vois le risque des hémorragies, les risques des perforations des organes génitaux. Je vois aussi les risques de mortalité maternelle qui peut survenir à la suite d'un avortement clandestin qui se pratique généralement dans des conditions peu hygiéniques. Donc les matériels souvent ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas stérilisés. Et ce qui fait que, en plus de tous ces risques de perforation, vous avez aussi un risque d'infection qui peut suivre d'ici quelques jours. Et tout cela ne contribue pas à développer la santé de la jeune fille.
Qu'est-ce qui, selon vous, serait à la base des avortements clandestins? Pourquoi aujourd'hui les jeunes filles, particulièrement, recourent aux avortements clandestins?
Le recours aux avortements clandestins, c'est un phénomène qui est complexe, il faudrait le dire déjà. Et aussi plusieurs facteurs influencent les recours à l'avortement clandestin. J'aimerais commencer par le niveau structurel qui dépend en fait de l'accès aux services de santé adaptés aux adolescents et jeunes, puisque généralement les filles n'ont pas accès aux services de santé sexuelle et reproductive dans les établissements de soins de santé, surtout lorsqu'on parle des avortements. Parce qu'il y a cette stigmatisation de l'avortement qui est là, que ce soit au niveau des prestataires de soins, mais aussi déjà à l'entrée, les personnels non soignants, les vigiles, tout le monde commence à stigmatiser la fille. Déjà quand on la voit enceinte, ça fait qu'elles ont peur d'aller dans les établissements de soins de santé. Mais aussi il y a des filles qui ont été chassées des établissements de soins de santé par les prestataires, parce qu'ils ont estimé que faire avorter une fille, c'est un péché, ou soit c'est contraire à leur éthique personnelle. Donc, ça, c'est le niveau structurel, mais il y a aussi les facteurs liés aux conditions socio-économiques de la jeune fille. Parfois, elle est dans une famille qui n'a pas assez de moyens, et elle voit peut-être ses rêves en matière de scolarité, l'avenir, le travail qu'elle voudrait faire un jour, être perturbée à cause d'une grossesse non désirée, elle va vouloir avorter. Parfois, c'est aussi le fait que l'auteur de la grossesse, qui n'est pas socialement assis, ou soit qui nie la grossesse, la fille s'est dit, bon, je suis chassée de chez moi, je risque d'être chassée. L'auteur de la grossesse ne sait pas prendre cette grossesse en charge, qu'est-ce qui m'arrive? Elles finissent par un moment par avorter, de manière clandestine surtout, parce qu'elles ont aussi peur que la famille le sache. Mais il y a aussi tout ce qui est, je dirais, conception au niveau des familles, puisqu'il y a des parents parfois qui disent à leur enfant, dès que tu as une grossesse chez moi, tu ne vas pas rester, j'arrête de payer tes frais académiques, j'arrête de payer tes frais scolaires, d'ailleurs tu ne seras pas mon enfant, tu ne seras plus ma fille. Alors par crainte des parents, elle peut aller chercher un avortement, malheureusement clandestin, chez des gens qui ne sont pas formés et qui n'ont pas la compétence pour ça.
Peuvent-elles, ces jeunes filles, être assistées en cas de grossesse non désirée?
Oui, les jeunes filles peuvent être assistées en cas de grossesse non désirée. Mais permettez-moi d'aller déjà un peu plus en avant. Les jeunes filles ont accès à l'information au niveau des établissements de soins de santé aujourd'hui, parce que le PNSA, depuis 2011, a intégré les paquets de services de santé adaptés aux adolescents et jeunes dans 22 provinces sur le 26, où nous avons des prestataires cliniques formés, mais nous avons aussi des prestataires communautaires qui sont principalement des pères éducateurs formés. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent des activités de communication, d'information et de sensibilisation auprès de leurs pères, dans une vision selon laquelle les jeunes sont eux-mêmes les promoteurs et les acteurs de droits en santé sexuelle et reproductive. Déjà en amont, il y a des activités qui permettent aux adolescentes, aux jeunes filles, d'avoir des connaissances, mais aussi des aptitudes et des compétences pour utiliser la contraception pour éviter une grossesse non désirée, mais aussi en cas de grossesse non désirée, se rendre dans les établissements de soins de santé pour avoir les conseils qui conviennent.
Qu'est-ce qui amène les jeunes à recourir à l'avortement clandestin alors qu'ils peuvent être assistés?
Bon, en général, c'est le manque d'informations. Parce qu'il faut savoir que les adolescentes n'ont pas souvent toutes les informations dont elles ont besoin en matière de santé sexuelle et reproductive, et plus particulièrement en matière des avortements, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi la méconnaissance du cadre légal et normatif, surtout des lois sur les avortements. Parce qu'aujourd'hui, avec le protocole de Maputo, qui a été publié dans le journal officiel depuis 2018, nous connaissons que l'avortement est légal dans notre pays. Et il a été développé pour ce faire. Les normes et directives en matière de soins complets d'avortement centrés sur la femme, qui est même intégrée dans le système de santé. Malheureusement, il y a des zones qui n'ont pas bénéficié de ce genre de formation, où certaines pesanteurs socioculturelles et parfois religieuses perdurent, et ce qui fait que parfois les prestataires aussi évitent d'offrir un service qui est reconnu et qui est légal au niveau du pays.
Vous avez soulevé un point important, le manque d'informations chez les jeunes, mais quelles sont alors les politiques de santé publique mises en place pour réduire le nombre d'avortements clandestins?
Au niveau des politiques, j'aimerais déjà souligner l'actualisation de la politique nationale santé et bien-être des adolescents et jeunes en 2023, qui avait intégré beaucoup d'innovations réalisées pour accroître l'utilisation des services de santé par les adolescents et jeunes, mais aussi différents documents normatifs qui ont été élaborés. Sur le plan normatif et au niveau des politiques, aujourd'hui la RDC dispose d'un cadre légal qui est vraiment favorable. Quand je parle de cadre légal, je vois toutes les lois en matière de la santé sexuelle et reproductive qui donnent à la jeune fille le pouvoir d'utiliser la contraception, d'utiliser les services dont elle a besoin. Alors, au niveau terrain ou au niveau programme, les activités sont réalisées. C'est principalement les activités d'information, d'éducation et de communication que le programme mène, avec l'appui de la plupart de ses partenaires techniques et financiers. Et cela permet d'aider les adolescentes à avoir les connaissances nécessaires. En plus de ces activités qui apportent les connaissances aux adolescentes, il y a aussi les activités de formation et de renforcement de la qualité des services, puisqu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'information, mais quand on arrive au niveau des établissements de soins, on doit trouver aussi des services de qualité qui sont respectueux des droits humains, mais aussi qui s'offrent dans un climat de respect mutuel, de confidentialité. Donc c'est ce que le PNSA, le ministère de la Santé, fait pour réduire le nombre, moi je dirais la prévalence, des avortements clandestins dans notre pays.
Nous tendons vers la fin de notre interview. Quelles sont les informations essentielles que les adolescentes devraient connaître sur la contraception et les risques liés à l'avortement?
Les informations essentielles qu'elles devraient connaître, ces informations, elles sont toujours partagées. J'aimerais débuter par là, dans toutes les activités de sensibilisation, dans les espaces de jeunes qu'on appelle aussi les espaces conviviaux, que le PNSA a intégré dans les établissements de soins de santé. Premièrement, la contraception a un avantage, sur la vie de la jeune fille, parce qu'elle lui permet d'éviter une grossesse non désirée, c'est-à-dire déjà d'éviter un avortement clandestin, puisque généralement c'est la grossesse non désirée qui incite les jeunes filles, dans un contexte de peu de pouvoir d'accès aux services de santé, d'aller vers les charlatans. Deuxièmement, ça leur permet d'avoir la grossesse à un moment où elles ont atteint la maturité des organes, parce que c'est important. Une grossesse qu'une fille porte avant l'âge de 18 ans, dans notre pays on tend vers 20 ans, tenant compte de la malnutrition et tous ces problèmes qui prévaut dans notre pays, ça fait qu'elle a les risques d'encourir plusieurs complications pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Donc ça leur aide aussi à maintenir leur santé, à diminuer la mortalité maternelle, ce qui est un fléau pour notre pays. Mais aussi ça leur permet de poursuivre leurs études et de pouvoir s'engager dans la vie professionnelle. Ce sont là les avantages de la contraception. Mais je sais que sur terrain, l'offre de la contraception elle est réglementée. Et on ne saura pas s'étendre sur tout ça, sinon on risque de passer plus de temps que prévu. Mais aussi, par rapport aux avortements, quelles sont les informations essentielles que les jeunes filles devraient connaître? Premièrement, une grossesse n'est pas une fatalité. La grossesse n'est pas non plus la fin du monde. Il est important de pouvoir fréquenter les établissements de soins de santé pour avoir des conseils adaptés. Les filles doivent savoir aussi qu'elles ont le droit, lorsqu'elles ne veulent pas d'une grossesse non désirée, de recourir à un avortement sécurisé dans un établissement de soins de santé.
Pour finir, comment peut-on améliorer l'accès à la contraception et aux soins de santé pour les jeunes?
Pour améliorer l'accès à la contraception et les soins en santé en général pour les adolescents et jeunes, il y a plusieurs pistes. La toute première, c'est renforcer les connaissances, mais aussi les aptitudes et les compétences des adolescentes et des jeunes filles à l'utilisation de la contraception et l'utilisation des services de santé adaptés aux adolescents et jeunes. Une jeune fille ne devrait pas avoir honte de se rendre dans un établissement de soins de santé lorsqu'elle constate que, par exemple, elle a des écoulements vaginaux anormaux, qui peut être un signe d'une IST. Elle ne devrait pas avoir honte de se rendre dans un établissement de soins de santé. Donc, ça c'est la première des choses. Il faut renforcer les connaissances, les aptitudes et les compétences des adolescentes et des jeunes filles. Il faudrait lutter contre les barrières socioculturelles et religieuses qui tendent à limiter l'accès à l'utilisation des services de santé adaptés aux adolescents et jeunes. Et là, nous voyons la mobilisation des leaders communautaires, des journalistes que vous êtes, qui partagez l'information à la communauté. Nous voyons aussi les leaders religieux, mais aussi, pourquoi pas, les politiques qui doivent mettre en place des lois qui facilitent l'exercice des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, il faut vraiment réduire, si pas anéantir, toutes les barrières. Mais aussi, il faudrait améliorer la couverture des services. Si les services de qualité sont là, il n'y a plus de barrières. Les filles ont les compétences, alors elles pourront facilement utiliser les services dont elles ont besoin.
Docteur Lorenzo Mouraïri, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'est tout pour aujourd'hui. Notre émission était consacrée aux causes, aux conséquences et à la prévention de l'avortement clandestin chez les jeunes. Nos invités experts ont mis en lumière les moyens de prévention des grossesses non planifiées qui sont souvent à l'origine de ces pratiques dangereuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.radiocapi.net ou sur notre page Facebook Bana Okapi. Un grand merci à toute l'équipe qui a rendu cette émission possible. Sulamit Okipuni, Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, Grâce Nvezolo, Rachel Kessembangu, André Kitenge et Stanislas Diomi. Merci à Christian Mapenda Noyakris pour la coordination et à Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano pour la supervision et à Depsovita pour la mise en onde. Je suis Sarah Sumbela et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la santé et le bien-être des jeunes sont l'affaire de tous. Ciao.